Au doux plaisir de se retrouver. Une émission proposée par le musée Marguerite Audoux en collaboration avec Studio 45. Et présentée par Benjamin Chausseron.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour l'épisode numéro 3 de l'émission « Au doux plaisir de se retrouver ». Aujourd'hui, une émission un peu particulière, une émission gourmande. Et oui, nous mettrons en lumière quelques gourmandises locales. Alors, mesdames et messieurs, vous en avez l'habitude, lors de notre émission, nous invitons plusieurs types d'invités. Parfois, nous invitons des personnes qui nous ont accompagnés tout au long de ces 10 années écoulées. Parfois, nous invitons également des personnes qui partagent la même philosophie que nous, à savoir la défense du monde rural. Et parfois, nous invitons également des structures ou des personnes qui fêtent, elles aussi, leur anniversaire en 2025, comme nous. Alors aujourd'hui, nous recevons trois invités qui partagent au minimum l'un de ces trois critères, voire plusieurs pour certaines. Trois profils complémentaires, comme vous pourrez le constater. Ainsi, nous avons le plaisir de recevoir Lolita. Lolita, créatrice de Bonheur Gustatif. Vous vous êtes installée au tout début de l'année 2025 avec Boucher Bonheur à Barlieu. Nous recevons également Laura. Laura fête, comme nous, ses 10 ans sur notre territoire en 2025. Vous avez installé en 2015 les gourmandises de Laura à Oison. Et enfin, pour une chronique produits locaux, nous recevons Pauline, chargée de communication à l'Office de tourisme intercommunal Sauldre-et-Sologne. Bonjour à toutes les trois. Alors, mesdames et messieurs, ouvrez grand vos oreilles et préparez vos papilles. C'est parti pour l'épisode numéro 3 de notre émission Au doux plaisir de se retrouver.
Au doux plaisir de se retrouver, épisode 3, la première invitée du jour.
Première invitée, Lolita, rebonjour.
Bonjour.
Alors Lolita, nous n'avons pas de projet en commun avec le musée pour l'instant. Néanmoins, nous sommes déjà rencontrés. Effectivement, un jour, j'ai lu un article vous concernant et cet article m'a interpellé. Effectivement, travaillant moi-même dans une commune de seulement 180 habitants, j'ai été agréablement surpris de voir que vous aviez installé votre activité dans une autre petite commune rurale, à savoir Barlieu. J'ai donc réalisé une commande auprès de vous, à titre personnel, pour soutenir votre initiative. J'ai adoré trois choses par la suite. Tout d'abord, votre concept, puis les produits que vous m'aviez proposés. Des saveurs très originales, très inédites, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et troisièmement, j'ai aussi adoré vos explications. Vous m'avez expliqué et décrit votre démarche avec passion. Une passion très communicative, avec un grand enthousiasme. C'est la raison pour laquelle je vous invite aujourd'hui. En effet, je pense que nous avons la même philosophie. À Sainte-Montaigne, nous essayons de faire vivre le monde rural et de créer des liens sociaux par le biais de la culture. Et vous, à Barlieu, vous poursuivez cette même philosophie, mais à travers la nourriture. Je vous propose donc de commencer l'interview. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots votre parcours ?
Alors, du coup, j'ai un parcours un petit peu atypique. À la base, je ne suis pas du tout issue de la restauration. Ce que j'aime surtout, c'est faire les choses avec passion. Et quand j'ai décidé de me mettre à fond dans quelque chose, voilà, je le fais. Pour la petite histoire, juste avant de commencer, vous étiez mon premier client. Vous ne le saviez pas jusqu'ici.
Non, je l'apprends ce soir. Merci pour l'info.
Et c'est un peu grâce à vous que ça a démarré parce que...
N'exagérons rien.
Non, parce que ça a permis derrière d'avoir justement un bel avis qui m'a permis de continuer à avancer dans ce sens. En ce qui concerne mon parcours, du coup, j'ai d'abord suivi des études de droit. Je me suis ensuite dirigée vers le métier de journaliste que j'ai exercé pendant 7 ans pour un journal local et pour une commune où je vivais auparavant. Et pour la petite histoire, la petite anecdote, Boucher Bonheur, ça a commencé un soir. J'ai dit à ma fille, j'ai vraiment envie de faire à manger, d'avoir mon entreprise. Elle m'a dit, bah maman, pourquoi tu le fais pas? Je lui ai dit, bah c'est vrai d'ailleurs, pourquoi je le ferais pas? Et le lendemain, j'étais à fond. Et voilà, Boucher Bonheur était né. Je ne veux pas non plus dire que j'ai créé ça sur un coup de tête. C'était mûrement réfléchi, mais j'ai simplement voilà, osé me lancer grâce à elle et grâce au fait qu'elle croit en moi et à mon projet. Voilà, pour mon parcours.
Très bien. Et pourquoi avoir choisi de vous installer au plein cœur du monde rural à Barlieu ? Alors, pour les personnes qui nous écoutent, on précise, Barlieu, c'est en plein cœur du Pays Fort, juste à côté de Vailly-sur-Sauldre. Et Barlieu compte 330 habitants. Alors, pourquoi ce choix original et audacieux ?
Alors oui, tout à fait. Alors premièrement, j'habite à Barlieu, donc c'était un petit peu difficile de faire autrement, bien que ce ne soit pas une contrainte pour moi d'être installée à Barlieu et dans le monde rural. J'aime la campagne, j'aime le monde rural, j'y vis depuis 20 ans. Et pour moi, c'est aussi l'occasion d'offrir un service supplémentaire à la population qui n'en a pas forcément sur le secteur. Bien que je mette un petit bémol, parce que effectivement, sur Barlieu, Concressault, Vailly, par exemple, pour l'instant, je travaille très peu. Je n'ai pas beaucoup de clients. Et que c'est plus sur les villes un peu plus développées où je travaille, mais ça ne veut pas dire que, voilà, que je perds espoir et ça viendra, en fait. C'est juste qu'il y a un peu moins de monde sur ce secteur et que le temps que ça prenne. Mais voilà, c'est un choix parce que c'est là où je mène ma vie personnelle, donc c'est aussi l'endroit où je mène ma vie professionnelle, tout simplement.
D'accord. Et pour donner envie à notre public, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots la philosophie de Boucher Bonheur ?
Alors, la philosophie de Boucher Bonheur, dans un premier temps, et c'est important de le dire, c'est une cuisine végétarienne. Donc, c'est une cuisine un peu spéciale dans le sens où, justement, c'est ce que je voulais dire dans la question que vous aviez posée tout à l'heure, et je me suis dit que ça pouvait peut-être attendre, mais c'est aussi pour ça que dans le monde rural, ça peut être un peu compliqué, parce que c'est nouveau. C'est inconnu et qu'il y a aussi des habitudes de terroir qui ne sont pas forcément des habitudes végétariennes. La philosophie et mon idée, c'était vraiment de montrer qu'on peut manger végétarien et gourmand. Ça ne veut pas dire qu'on mange des choses qui n'ont pas de goût. Et en plus, voilà, que c'est sain, cuisiné et qu'on découvre quelque chose. La philosophie qui ne va pas sans le fait que ce soit végétarien, pour moi, c'est le fait que ce soit éco-responsable et local. Ce qui veut dire que aujourd'hui, je m'approvisionne uniquement en légumes bio et en local. Donc, je ne sais pas si on peut le dire, mais je prends mes légumes à Saint-Firmin chez un monsieur qui est donc en bio, qui s'appelle Du Miel dans les Salades, Thomas Ganem, qui fait d'ailleurs le marché à Gien. Et pour tout le reste, j'essaye aussi de me fournir en local pour tout ce que je peux. C'est pas possible pour tout, mais j'essaye au maximum. Et éco-responsable, pourquoi ? Vous le savez bien vous-même, Benjamin, parce que quand vous avez commandé, j'ai précisé que je récupérais les pots. Voilà, donc je n'utilise pas de plastique. C'est des pots en verre qui sont consignés et que je récupère chez mes clients, entre autres. J'essaie de minimiser au maximum les emballages. Donc, j'utilise du papier craft au lieu du film ou de l'aluminium, par exemple. Et voilà, j'utilise des assiettes en feuilles de palmier qui sont réutilisables. Voilà, c'est le concept, c'est ça, en quelques mots.
D'accord, parfait. En tout cas, vous parlez toujours avec passion, comme la première fois que nous nous sommes rencontrés, et c'est un véritable plaisir de vous écouter.
Merci.
Alors, côté salé, vous nous proposez quoi ?
Alors, il y a une offre plutôt variée. À la base, initialement, quand j'ai créé Boucher Bonheur, l'idée, c'était de proposer, de faire une proposition différente tous les mois. Donc, une proposition différente tous les mois, c'est une planche, en fait, avec des bouchers, comme son nom l'indique. L'idée pour moi, c'était de faire découvrir la cuisine végétarienne avec des petites bouchées, en me disant que les gens se diraient pas « j'ai pas de viande dans mon assiette ». Et du coup, avec des petites bouchées, c'était plus facile de faire découvrir comme ça, ce qui est vrai en fait, parce que ça marche bien, le fait d'avoir plusieurs propositions. Donc, je propose chaque mois en fonction des produits de saison. Ça veut dire qu'au mois de février, il n'y a pas de tomates chez moi, ça n'existe pas. Et il n'y aura pas non plus de potimarron au mois de juillet. Voilà, même si c'est un légume qui se garde bien pour faire... voilà. Alors, côté salé, j'ai un peu aussi varié depuis quelques temps parce que je fais aussi des marchés et des événements. Donc, je propose des sandwichs un peu façon gastronomique. Donc, l'idée, c'est d'avoir une... Je vous donne un exemple, c'est une ciabatta. Le pain, je le prends aussi en local. Je ne le fais pas, parce que je n'ai pas le temps. Donc, une ciabatta avec une tapenade d'olive noire, avec du concombre libanais, du crottin de chavignol, pour rester aussi dans le terroir, parce que c'est important, de la salade verte, des graines de lin, du miel, de l'huile d'olive et des aromates. Ça, c'est un exemple d'un sandwich, par exemple, qu'on peut avoir. Je propose aussi des wraps. Ce ne sera pas les wraps que vous avez l'habitude de manger ailleurs non plus. Donc, du fromage frais avec de la salade, des pois chiches, parce que les légumineuses, c'est important quand on ne mange pas de viande ni de poisson, ou des haricots rouges. Des courgettes marinées avec du tamarin ou des concombres marinés. Voilà. Enfin, l'idée, c'est de faire tout minute quand je suis sur les marchés pour que chacun puisse choisir ce qu'il a envie. J'ai aussi une large proposition asiatique parce que c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. Donc, je fais des nems végétariens, des samosas végétariens, des gyoza, des rouleaux de printemps, beaucoup de makis parce que j'adore ça et que voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Inspiration du monde avec des inspirations un peu indiennes. Et pour découvrir la planche du mois, là, du coup, on est sur une planche estivale avec un exemple des cookies au poivron, des gougères à la tomate, enfin voilà, des petites choses comme ça. Mais pour la découvrir, il y a juste à aller sur mes réseaux.
Et côté sucré ?
Alors, côté sucré, il y en a un petit peu moins, et puis je ne vais pas faire de concurrence à Laura. Je ne me permettrai pas parce que je ne suis pas pâtissière. beaucoup, beaucoup de tiramisu. Alors, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de m'inspirer des cuisines du monde. Donc, on est du côté asiatique, on est du côté indien, on est du côté italien. Enfin, voilà. Bon, ça, c'est vraiment, du coup, le tiramisu, c'est vraiment, pour le coup, mon côté italien. On reste sur du classique avec un tiramisu café chocolat ou avec des fruits de saison. Donc, en ce moment, framboise et myrtille. Alors, je précise, parce que c'est important pour moi, que les tiramisu, c'est dans des pots en verre, bonne maman, que je récupère et que je consigne. Voilà. Bon, des fois, c'est pas possible de les récupérer parce que je revois pas les personnes, mais en tout cas, je les consigne. Je propose aussi des choses un peu plus classiques, des cookies, des madeleines. La petite nouveauté du moment, c'est une découverte. J'ai découvert qu'on pouvait faire de la mousse au chocolat avec du lait de coco et j'étais bien contente que ça fonctionne. Donc, c'était la petite découverte du moment. Et puis sinon, je fais aussi des verrines avec du lait de coco, des graines de chia, avec des fruits. Voilà, des choses un peu saines. C'est un peu plus restreint au niveau sucré et ça va bien comme ça.
D'accord. Et quelle formule proposez-vous à vos clients? Alors, au niveau des livraisons notamment?
Oui, j'avais bien compris la question. Je livre à domicile de manière récurrente. J'essaye de le faire au maximum. En revanche, c'est vrai que la livraison à domicile, quand c'est à 1 heure, j'ai eu par exemple des clients à 9h. Là, c'est un peu compliqué parce que il faudrait prendre beaucoup d'argent pour la livraison et c'est pas le but. de la manœuvre. Donc voilà, on essaie de s'arranger. Par exemple, ces gens-là, on s'était retrouvés à Cône. Donc pour en revenir à la question initiale, la formule, livraison à domicile. Il est possible de retirer sa commande chez moi à Barlieu. Et pour les buffets, pour les événements, je livre et je fais la mise en place et la décoration. Et je suis donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi sur des événements, marchés, fêtes, concerts. Voilà, du coup, tout est possible. En fait, il n'y a pas de restriction de mon côté.
D'accord, parfait. Et dernière question, quel bilan tirez-vous de vos premiers mois et avez-vous certaines ambitions pour le futur ?
Et bah du coup, pour moi, le bilan, il est très positif. Ma première et ma plus grande satisfaction, c'est que 90% des personnes qui m'ont commandé ne sont pas végétariennes. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis que les gens sont très ouverts d'esprit, qu'ils ont envie de découvrir une autre cuisine et que c'est pas parce que c'est pas leur alimentation habituelle qu'ils n'ont pas envie d'essayer et qui et d'ailleurs le retour est très positif, ils adorent, donc vraiment ça c'est super, je suis très contente. Alors on va pas se mentir, il a fallu quand même quelques mois pour que ça démarre et voilà, un peu plus difficile dans les communes plus petites, mais j'y crois et ça va venir. Après, au niveau des événements, là où je suis contente, c'est aussi que, pareil, quand je vais quelque part, les gens sont curieux, ils essayent, ils reviennent, ça fonctionne. Ça, c'est plus personnellement, mais je suis assez contente de voir que y a quand même des gens qui sont intéressés par l'écologie. Du coup, tout le monde ne se dit pas « Oh, elle fait payer une consigne, c'est horrible !» Et du coup, ça me fait très plaisir. Et il y a autre chose qui me fait encore plus plaisir, c'est que la plupart du temps, quand je parle de la consigne, les gens me disent « Ah, mais moi, j'en ai plein des pots en verre, je peux vous les donner si vous voulez. » Et ça, je crois que c'est vraiment une spécificité de la ruralité, parce que je suis pas sûre que ça se passerait au cœur d'une grande ville, par exemple. Et en fait, ils le font juste parce qu'ils ont envie, ils ont gardé ces pots-là pour faire des confitures, mais ça leur fait plaisir de me les donner à moi, et c'est trop bien. Et du coup, je termine avec les ambitions et les projets. Je sais pas, je suis peut-être un peu bavarde. Du coup, j'ai un projet en commun avec mon conjoint, qui est pâtissier. Du coup, il est encore un peu tôt pour en parler, mais voilà, on aura sûrement l'occasion d'en rediscuter. Et du coup, moi, je souhaite continuer comme j'ai commencé, en développant une gamme de propositions. Voilà, toujours un peu plus varié, différent de ce qu'on peut trouver habituellement. Alors, ce que j'aimerais vraiment, c'est pouvoir faire découvrir cette cuisine-là dans les écoles, dans les EHPAD peut-être, les centres de loisirs, en tout cas auprès de ceux qui n'ont pas forcément accès. Et l'idée, voilà, ce serait peut-être de pouvoir faire des ateliers. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de proposer des événements bien-être, donc en lien avec des personnes qui font de la sophrologie, de la relaxation, des choses comme ça. Et parce que ça passe, du coup, si on peut terminer là-dessus, c'est juste que, en fait, ça passe d'abord par bien manger, d'être bien. Voilà.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses. Et nous suivrons, bien entendu, l'évolution de votre activité.
Merci.
Ah, alors je crois que nous avons un témoignage, un certain Patrick. Oui, alors nous écoutons Patrick.
Y'a mon grand frère Henri qui me garde bouillie, et ma petite.
Alors bien sûr, vous avez reconnu la chanson « J'ai bien mangé, j'ai bien bu » de Patrick Topalov, une chanson de 1971. Et oui, ici, on n'attend pas Patrick, pas seulement pour l'apéro, mais pour le repas complet.
Au doux plaisir de se retrouver, épisode 3, la deuxième invitée du jour.
Passons à notre deuxième invitée, Laura, rebonjour.
Bonjour.
Alors nous avons une histoire commune avec le musée, puisque le 15 avril 2023, nous avions organisé une animation sur le modèle du meilleur pâtissier, l'émission de télévision. Donc le principe était simple, nous avions lancé un appel à la population locale qui devait réaliser un gâteau sur le thème de la couture, puisque Marguerite Audoux a été couturière. Donc pour juger ces gâteaux, tant sur leur beauté que sur leur goût, il fallait un jury, mais un jury totalement légitime. Donc nous avions demandé aux forces vives professionnelles locales d'intégrer ce jury. On peut citer notamment Claude François, représentante des pâtes feuilletées de Blancafort, ou encore Lady Christelle, couturière bien connue du côté d'Aubigny-sur-Nère notamment. Et parmi ce jury, il y avait également vous, Laura. Et donc, on ne se connaissait pas à l'époque, et vous avez tout de suite accepté notre invitation. Pour quelle raison ?
Eh bien, j'ai accepté parce que, déjà, je trouvais ça très agréable qu'on puisse me demander mon avis sur quelque chose. Ça me faisait aussi l'occasion de découvrir le musée, que je connaissais pas avant. On a pu le visiter avant le concours. Et ça m'a aussi permis de connaître ou de rencontrer une nouvelle fois les professionnels de la région, des gens qu'on n'a pas toujours l'habitude de croiser, de rencontrer aussi tous les gens qui participaient pour le musée, les gens qui ont eu le plaisir de venir participer au concours. C'est quand même agréable de voir des gens qui ont aussi envie de faire de la pâtisserie, d'envie de s'investir un petit peu dans la commune. Donc c'était très agréable de participer et d'y venir.
Très bien. Et comment s'est déroulée avec plus de précision cette animation ? Quelles étaient les différentes étapes notamment ?
Alors, pour les professionnels, nous sommes arrivés un petit peu avant. On a tous été présentés, on a été dans une salle. On nous a donné un petit peu le listing des choses qu'on allait noter sur les gâteaux, les choses à regarder et à peaufiner. Et pendant ce temps-là, donc on était séparés. Pendant ce temps-là, toutes les personnes qui ont souhaité participer au concours sont arrivées avec leurs gâteaux, ont disposé leurs gâteaux sur une table. Et un petit peu après, le rideau a été ouvert. On a découvert tous les gâteaux pour pouvoir les juger vraiment de côté impartial, sans voir les personnes qui les avaient réalisés. On a d'abord regardé toutes les pâtisseries pour juger un petit peu le côté esthétique. Et après, on est passé à la dégustation. On a dégusté tous les gâteaux qui avaient été réalisés pour pouvoir aussi donner une note sur le goût.
Et le choix était dur.
Et le choix était dur parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choix. Donc, oui.
Et quels souvenirs précis en gardez-vous ? Est-ce qu'on vous en reparle par la suite
ou... Oui, on m'en a reparlé par la suite un petit peu, des gâteaux que les gens avaient réalisés, de ce qu'ils avaient, tenté, parce qu'il y a des gens que c'était vraiment la première fois qu'ils réalisaient les gâteaux, ceux qui ont essayé de réaliser un petit peu des décors, ce qui n'est pas forcément évident à la maison. Et puis aussi ce côté familial qui a été très agréable au musée, les gens qui sont venus présenter devant tout le monde leurs gâteaux, déguster leurs gâteaux devant tout le monde, c'était vraiment quelque chose d'agréable à faire.
Très bien, merci beaucoup. Et il se trouve que cette année, notre musée vous a sollicité. En effet, le musée a fêté ses 10 ans au mois d'avril dernier, et qui dit anniversaire, dit gâteau. Donc nous nous sommes tournés tout naturellement vers vous pour notre gâteau d'anniversaire. Et on vous avait fixé quelques impératifs, c'est-à-dire tout simplement être fidèle à la vie de Marguerite Audoux.
Oui.
Or, elle a eu une vie assez atypique. Donc, comment avez-vous procédé pour remplir cet objectif assez ambitieux ?
Alors, moi, on m'avait donné un petit peu les grandes lignes de ce qu'on souhaitait. J'ai refait un petit peu de recherche pour avoir quand même la bonne chronologie des choses sur la vie de Marguerite Audoux. À savoir qu'elle était d'abord bergère, pour commencer. Donc, dans le principe du gâteau, de garder un petit peu l'ordre des choses, plutôt bergère, après avoir le côté couture, et finir par le côté écrivaine avec les différents livres qu'elle a pu écrire.
Très, très bien. En tout cas, je peux témoigner que le gâteau était très beau et très bon. Alors, on a eu plus d'invités que prévu. Donc, toutes les parts étaient assez petites. Mais néanmoins, chaque invité a été vraiment ravi au niveau visuel et au niveau gustatif. Donc, un grand merci là aussi d'avoir rempli avec talent cet objectif fixé.
Merci à vous.
Alors, nous venons de parler de notre histoire commune, c'est-à-dire les gourmandises de Laura et le musée Marguerite Audoux. Maintenant, dans un second temps, parlons uniquement de vous. Alors Laura, vous fêtez en 2025 vos 10 ans. Bon anniversaire.
Merci, merci.
C'est un point commun que nous partageons donc. Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet, quel est votre parcours ?
Moi j'ai eu un parcours assez classique, je pense, en pâtisserie. J'ai commencé donc en apprentissage, j'avais 14 ans. J'ai commencé dans une entreprise à Aubigny-sur-Nère où j'ai fait mon CAP, ma mention complémentaire. Donc le CAP assez classique. Mention complémentaire, c'était dessert à l'assiette pour tout ce qui était plutôt restauration. Après, j'ai continué avec 2 années de BTM, donc brevet technologique des métiers, à Vierzon. Et après, donc du coup, à la suite de ces 5 ans d'études, j'ai commencé à travailler dans une boutique à Châtillon-sur-Loire, où j'ai appris à un petit peu à travailler les gâteaux et à faire de la pâtisserie plutôt décorée, parce que chose qui était assez rare plutôt dans la pâtisserie classique que j'avais apprise. Au bout de à peu près 2 ans, cette boutique a fermé, et donc du coup, j'ai dû choisir entre retrouver donc un patron quelque part ou éventuellement m'installer. Et moi, j'avais la possibilité de m'installer donc dans la ferme familiale où avant on faisait des fromages de chèvre. Il y avait un local qui était disponible, qui était déjà prêt pour l'alimentaire. Donc du coup, j'en ai profité pour m'installer à ce moment-là.
Donc vous vous êtes installé à Oison.
À Oison, c'est ça, Lieudit les Grands Chevaux.
Voilà, alors pour notre public, Oison se situe en Sauldre-et-Sologne, à quelques kilomètres seulement d'Aubigny-sur-Nère, et compte actuellement 660 habitants. Alors, une fois installé à Oison, c'est parti pour la belle aventure professionnelle. Et donc, depuis 10 ans, quel bilan tirez-vous ?
Plutôt positif, heureusement, depuis 10 ans. J'ai eu la chance de pouvoir avoir au départ la clientèle qui me connaissait un petit peu de Châtillon. Donc ça m'a permis quand même de débuter dans un endroit assez isolé. Je fais régulièrement les marchés, tout ce qui est marché de Noël, et quelquefois les marchés des producteurs, ce qui me permet aussi de me faire un petit peu connaître dans la région. Plutôt positif. Moi, je travaille plutôt bien. Après, le local commence à être un petit peu petit, donc je suppose que c'est bon signe. Mais voilà, c'est très agréable après de travailler par ici, donc je suis contente.
D'accord. Et en 10 ans, est-ce que vous avez déjà eu une demande assez particulière, spectaculaire, en termes de taille ou en termes de thème ?
Il y a toujours des choses un petit peu extravagantes ou un petit peu hors normes, on va dire. J'ai beaucoup dans les mariages, donc avec la pâtisserie à thème, c'est vrai qu'on demande toujours de respecter certaines décorations. J'ai pu réaliser en pièces montées tout un village pour un grand nombre de personnes. Donc il y avait l'église, la grande maison, le moulin, le pont. Donc c'était plutôt sympa. Pour des traiteurs qui sont un petit peu plus sur le thème médiéval en général, j'ai réalisé des dragons. J'ai réalisé des piles de livres pour des amateurs plutôt de science-fiction. Donc c'est assez rigolo pour des mariages de faire des grandes pièces comme ça qui sont plus importantes. Et après, sur les anniversaires, il y a vraiment tout en termes de thème.
Et pour les plus gros gâteaux, entre guillemets, combien de temps cela nécessite en termes de travail ?
Ça peut aller de 1 heure, 2 heures, on va dire, jusqu'à une journée complète en termes de décoration. Ça demande beaucoup de temps entre la cuisson, le montage et après toute la décoration à réaliser dessus. Après, en sachant que des fois, il y a des choses qui sont à terminer sur place quand je fais des livraisons, parce que tout n'est pas facile à transporter. Donc il y a des fois des choses qu'on termine sur place aussi.
D'accord. Et pour donner une petite idée à notre public, combien de gâteaux en moyenne réalisez-vous par semaine, par mois, voire par année ? Est-ce que c'est quantifiable en dehors des grosses périodes comme Pâques, par exemple ?
Peut-être par semaine. En général, j'en fais, je pense, entre 40 et 50 par semaine. Après, c'est tout confondu.
Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses.
Merci.
Et puis à bientôt peut-être pour un autre projet en commun avec notre musée.
Avec plaisir.
Ah, alors je crois que nous avons un nouveau témoignage. Quelqu'un qui apparemment a mangé tout le chocolat. Alors on écoute Sabine.
J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les Craven. Ah. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. J'ai tout démonté tes tableaux. J'ai tout découpé tes rideaux, tout déchiré tes belles photos que tu cachais dans ton bureau. n'allez pas me quitter de voir. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. J'ai tout démonté le bahut, j'ai tout bien étalé la glu. Comme t'étais toujours pas revenu, j'ai tout haché menu menu. J'ai tout brûlé le beau tapis, j'ai tout scié les pieds du lit, tout décousu tes beaux habits et mis le feu à la penderie. Fallait pas me quitter, tu vois, il est beau.
Alors, bien entendu, vous avez tous reconnu cette chanson de Sabine Paturel qui date de 1985, une chanson intitulée « Les bêtises ». Or, il faut savoir que les bêtises, il s'agit également d'une spécialité locale, plus précisément une spécialité de Cambrai, dans le Nord. Spécialité locale, est-ce qu'il en existe aussi en Sauldre-et-Sologne ? Eh bien, je me tourne vers Pauline pour avoir toutes les réponses.
Au doux plaisir de se retrouver, la chronique gourmandise avec Pauline.
Rebonjour Pauline.
Rebonjour.
Donc vous êtes donc responsable de la communication à l'Office de tourisme intercommunal Sauldre-et-Sologne. Donc vous êtes d'un grand soutien depuis 10 ans pour tous les lieux touristiques du territoire, que ce soit nos musées, nos châteaux et nos sorties nature. Donc j'en profite pour vous remercier pour votre soutien permanent. Et donc aujourd'hui, parlons gastronomie. Que pouvez-vous nous dire sur les gourmandises Sauldre-et-Sologne ?
Et oui, Benjamin, chaque jour, j'ai le plaisir de valoriser notre territoire, ses richesses, ses savoir-faire et bien sûr, ses spécialités culinaires parce que la découverte passe aussi par l'estomac. Aujourd'hui, je vous propose donc une petite escapade gourmande au cœur de la Sologne et on commence notre voyage à Nançay, charmant petit village solognaud et berceau d'une véritable petite pépite, les sablés de Nançay. L'histoire remonte aux années 1950. À l'époque, Jacques Fleurier, jeune apprenti et fils du boulanger, se trompe dans la pâte commandée par son père. Et comme on ne jette rien, et surtout pas en ces temps-là, il transforme sa petite bourde en gâteau rond. Le lendemain, ils sont offerts aux clients qui tombent immédiatement sous le charme. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est délicieux ! Sans le savoir, Jacques venait de créer une recette qui traverserait les générations. Aujourd'hui encore, ces sablés sont fabriqués avec le même soin dans l'usine locale Route de Salbris. Ils se dégustent sur place ou se glissent dans les valises comme un bout de Sologne à rapporter.
Très bien, donc si je comprends bien, à Nançay, avec le pôle des étoiles, on est content au niveau des pupilles et avec les sablés, on est content au niveau des papilles. Papilles et pupilles, même combat, c'est parfait. Alors, y a-t-il d'autres douceurs locales qui valent le détour en Sauldre-et-Sologne ?
Absolument ! Poursuivons notre route vers Argent-sur-Sauldre, où une autre gourmandise attire l'attention, et attise l'imaginaire, la langue de sorcière. Derrière ce nom malicieux se cache un biscuit croquant, mêlant raisins secs, noisettes et amandes, une vraie alchimie de texture et de goût. C'est Louis Lignol, artisan passionné qui a eu l'idée de ce clin d'œil savoureux au musée de la sorcellerie qui existait autrefois sur la commune de Concressault. Et c'est toute la magie du Berry et de la Sologne qui s'invite dans ce petit biscuit artisanal. La langue de sorcière est devenue une spécialité incontournable de la biscuiterie, un délice presque ensorcelant.
Et oui, alors ça donne très envie tout ça. Du moins si on a faim, mais si par hasard on a soif, bah comment fait-on? Par exemple, du côté d'Aubigny-sur-Nère, n'y aurait-il pas quelque chose d'assez savoureux?
Tout à fait, Benjamin. Vous êtes bien renseigné. Direction Aubigny, la fière cité d'estuaire avec son ambiance écossaise unique et son whisky. Et oui, Aubigny possède sa propre marque, le Aubigny Old Alliance. C'est un whisky de caractère, élaboré en Bourgogne, mais réservé uniquement à la ville. Il a été lancé dans les années 2000 à l'initiative du maire de l'époque, Yves Fromion, qui voulait un whisky à l'image de la ville et de ses liens historiques avec l'Écosse. Grâce à un partenariat avec le maître distillateur Michel Couvreur, un Old Malt de 12 ans d'âge a été sélectionné et depuis, il est uniquement vendu dans quelques commerces d'Aubigny, comme la cave d'Estuaire ou la Malle aux Saveurs.
Eh bien oui, une vraie rareté à déguster bien entendu avec modération. Quand on boit ce whisky, on est véritablement scotché. Merci beaucoup Pauline pour cette balade gourmande.
Avec plaisir Benjamin. Et voilà, la Sologne dans toute sa richesse, c'est une terre de gourmandise que l'on savoure autant qu'on la partage.
Et oui, absolument, je confirme. Et il faut savoir qu'entre la gastronomie et la littérature, il y a parfois beaucoup de points communs. Par exemple, au niveau de la nourriture, on peut dévorer également des livres, par exemple des livres de nos auteurs locaux, comme Fournier, Genevoix ou encore Seignol. Et au niveau de la boisson, on peut apprécier quelques vers. Et oui, certains vers se trouvent dans certains poèmes locaux. En effet, Sauldre-et-Sologne est riche de culture. Nous pouvons écouter dès à présent un poème intitulé « Gourmandise », lu par Gérard Fléchel, poète local de Clément. Nous écoutons.
Au doux plaisir de se retrouver, l'instant poésie avec Gérard Fléchel.
Un jour d'automne, la belle tropézienne traverse une place entourée de palmiers. La fameuse place des Lys, recouverte de mille feuilles. Elle file à la vitesse de l'éclair. Elle court, retrouver son amie Charlotte pour leur cours de danse, ses chaussons accrochés au cou. Ils la toisent d'un regard amusé. Ils sont tous là pour tenir conversation ou jouer la partie de pétanque. Tous la connaissent bien, la jeune Madeleine, une enfant du pays. Elle rêve de rejoindre l'opéra. Il y a l'ambassadeur et son copain, le diplomate, un jeune marchand chinois. Dans la bande, le Parisien, un ancien financier. Même le sacristain fait partie de la bande. Il reste baba dès qu'il l'aperçoit. Même les religieuses prient pour la petite, pour qu'elle réussisse. Plus loin, sur un banc, le divorcé. On sait juste qu'il vient de la forêt noire. Il ne reste pas longtemps à Saint-Tropez. Souvent, il passe l'hiver à Courchevel avec des amis congolais. Moi, je vais jusqu'à la pâtisserie faire le plein de gâteaux. Flan, gland, langue de chat, Paris-Brest. Je mets de côté un croissant pour l'oublier, le mendiant, du coin de la rue, et puis je regagne mon restaurant afin de gagner un peu de galette. Le jour décline, les voitures allument les phares, ainsi passent les jours, tous attendent l'été. L'hiver, ils auront temps de feuilleter un bon bouquin.
Merci beaucoup, Gérard, d'avoir posé ces quelques mots sur ce thème qui nous tient très à cœur, à savoir la gourmandise. Eh bien, mesdames et messieurs, je crois que nous pouvons passer au mot de la fin, F-A-I-M, pour conclure la fin, F-I-N, de notre émission. Alors, je passe la parole à nos trois invités. Est-ce que vous voulez dire un petit quelque chose pour conclure notre émission?
N'hésitez pas à passer nous voir à l'office de tourisme, où vous trouverez d'autres spécialités gourmandes, mais pas que.
Je remercie le musée Marguerite Audoux de m'avoir invité pour cette émission, d'avoir pensé à moi.
Je ne vais pas être originale, je vais faire la même chose que Laura. Je vais remercier le musée pour l'invitation et d'avoir partagé ce moment avec vous tous.
Merci à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation. C'est donc la fin, on peut l'écrire de plusieurs façons. Nous souhaitons bien entendu un très très bon appétit à nos auditeurs et à nos auditrices. N'hésitez pas à consulter les pages Facebook de nos trois invités. Boucher Bonheur, attention, boucher est au pluriel et bonheur est au singulier. Les gourmandises de Laura, ainsi que Tourisme Sauldre-et-Sologne. Vous pouvez aimer ces trois pages et suivre l'actualité de nos trois invités. N'hésitez surtout pas. On se dit à très bientôt sur Studio 45 pour l'épisode numéro 4. Au revoir.
C'était au doux plaisir de se retrouver. Une émission proposée par le musée Marguerite Audoux et présentée par Benjamin Chausseron. À très vite pour un nouvel épisode sur Studio 45. Retrouvez dès à présent cet épisode en version podcast au www.studio45-radio.fr.